Chapitre 2. Les gens de la maison allaient et venaient. Ils ne convenaient pas qu'on nous vît dans un entretien si réglé, et je la quittais après lui avoir dit ses fonctions et l'avoir même sur le champ mise en exercice. Elle avait de l'esprit, elle sentait l'importance du rôle qu'elle jouait. Je continuais de lui donner des avis qui la guidaient sur une infinité de petites choses essentielles. Elle avait tous les agréments de l'insinuation, sans paraître insinuante, et ma tante, au bout de 8 jours, fut enchantée d'elle. « Si elle continue toujours de même, me disait-elle en particulier, je lui ferai du bien, et tu n'en serais pas fâchée, ma nièce. »« Mais je vous y exhorte, ma tante, lui répondais-je. Vous avez le cœur trop bon, trop généreux pour ne pas récompenser tout le zèle et tout l'attachement du sien. » Car on voit que vous aimez, vous aime, c'est avec tendresse qu'elle vous sert. Tu as raison, me dit-elle, il me le semble aussi bien qu'à toi. Ce qui m'étonne, c'est que cette fille-là ne soit pas mariée, et que même, avec la figure qu'elle a dû avoir, elle n'ait pas rencontré quelque jeune homme riche et d'un état au-dessus du sien, à qui elle ait tourné la tête. C'était précisément de ses visages propres à causer bien de l'affliction à une famille. « Hélas, répondais-je, il a peut-être manqué à Bruno pour faire beaucoup de ravages que d'avoir passé sa jeunesse dans une ville. Il faut que ce soit une de ces figures-là que mon cousin d'Ursan ait eu le malheur de rencontrer, ajoutai-je d'un air simple et naïf, mais à la campagne où Bruno a vécu, une fille, quelque aimable qu'elle soit, se trouve comme enterrée et n'est un danger pour personne. » Ma tante, à ce discours, levait les épaules et ne disait plus rien. D'Ursan, le fils, revenait de temps en temps avec son père. Madame d'Orfainville les amenait tous deux et les descendait du haut de l'avenue, d'où ils passaient dans le bois où j'allais les voir quelques moments, et la dernière fois que le père y vint, je le trouvais si malade, il avait l'air si livide et si bouffi, les yeux si morts, que je doutais très sérieusement qu'il puisse en retourner, et je ne me trompais pas. « Il ne s'agit plus de moi, ma chère cousine. Je sens que je m'y meurs, me dit-il. Il y a un an que je languis, et depuis 3 mois, oh, mon mal est devenu une hydropisie qu'on n'a pas aperçue d'abord et dont je n'ai pas été en état d'arrêter le progrès. Madame de Trainville m'a donné un médecin depuis que je suis chez elle. Elle m'a procuré tous les secours qu'elle a pu, mais il y a apparence qu'il était plus temps, puisque mon mal a toujours augmenté depuis. Aussi ne me suis-je forcé de venir aujourd'hui ici que pour vous recommander une dernière fois les intérêts de ma malheureuse famille. Mais après tout ce que je vous ai dit, lui répartis-je, ce n'est plus ma faute si vous n'êtes pas tranquille. Mais laissons là cette opinion que vous avez d'une mort prochaine. Tout infirme et tout affligé que vous êtes, votre santé se rétablira dès que vos inquiétudes cesseront. Ouvrez d'avance votre cœur à la joie. Dans les dispositions où je vois ma tante pour Madame d'Ursan, je la défie de vous refuser votre grâce quand nous lui avouerons tout. Et cet aveu ne tient plus à rien. Nous le ferons peut-être demain, peut-être ce soir. Il n'y a pas d'heure à présent dans la journée qui ne puisse en amener l'instant. Ainsi, soyez en repos. Tous vos malheurs sont passés. Il faut que je me retire, je ne puis disparaître pour longtemps, mais Madame d'Ursan va venir ici, qui vous confirmera les espérances que je vous donne et qui pourra vous dire aussi combien vous m'êtes chers tous les trois. Ces dernières paroles m'échappèrent et me firent rougir à cause du fils qui était présent, et sans qui, peut-être, je n'aurais rien dit des deux autres, s'il n'avait pas été le troisième. Aussi, ce jeune homme, tout plongé qu'il était dans la tristesse, se baissa-t-il subitement sur ma main, qu'il prit et qu'il baisa avec un transport, où il entrait plus que de la reconnaissance, quoi que leur fût le prétexte, et il fallut bien aussi n'y voir que ce qu'il disait. Je me levai, cependant, en retirant ma main d'un air embarrassé. Le père voulut, par honnêteté, se lever aussi pour me dire adieu. Mais, soit que le sujet de notre entretien l'eût trop remué, soit qu'avec la difficulté qu'il avait de respirer, il fût encore resté trop affaibli par les efforts qu'il venait de faire pour arriver jusqu'à l'endroit du bois où nous étions, il lui prit un étouffement qui le fit retomber à sa place, où nous crûmes qu'il allait expirer. Sa femme, qui était sortie du château pour nous joindre, accourut au cri du fils, qui ne furent entendus que d'elle. Oh, j'étais moi-même si tremblante qu'à peine pouvais-je me soutenir, et je tenais un flacon dont je lui faisais respirer la vapeur. Enfin, son étouffement diminua, et Madame d'Ursan le trouva un peu mieux en arrivant. Mais de croire qu'il put regagner le carrosse de Madame d'Orfrainville, ni qu'il soutint le mouvement de ce carrosse depuis le château jusque chez elle, il n'y avait pas moyen de s'en flatter, et il nous dit qu'il ne se sentait pas cette force-là. Sa femme et son fils, tous deux plus pâles que la mort, nous regardaient d'un air égaré et me disaient mais que ferons-nous donc ? Moi, je me déterminais. « Il n'est point à hésiter, leur répondis-je. On ne peut mettre monsieur qu'au château même, et pendant que ma tante est avec madame d'Onfreville, je vais chercher du monde pour l'y transporter. » « Au château ! » s'écria sa femme. « Mais mademoiselle, nous sommes perdus !»« Non, lui dis-je, ne vous inquiétez pas. Je me charge de tout, laissez-moi faire. » J'entrevis en effet, dans le parti que je prenais, que de tous les accidents qu'il y avait à craindre, il n'y en avait pas un qui ne pût tourner à bien. D'Ursan malade, ou plutôt mourant, D'Ursan que sa misère et ses infirmités avaient rendu méconnaissable, ne pouvait pas être rejeté de sa mère quand elle le verrait dans cet état-là, et ce ne serait plus ce fils à qui elle avait résolu de ne jamais pardonner. Quoi qu'il en soit, je courus à la maison, j'en amenai deux de nos gens qui le prirent dans leurs bras, et je fis ouvrir un petit appartement qui était au rez-de-chaussée de la cour et où on le transporta. Oh, il était si faible qu'il fallut l'arrêter plusieurs fois dans le trajet, et je le fis mettre au lit, persuadé qu'il n'avait pas longtemps à vivre. La plupart des gens de ma tante étaient dispersés alors. Nous n'avions pour témoins que trois ou quatre devant qui madame d'Ursan contraignait sa douleur, comme je le lui avais recommandé, et qui, sur les expressions de d'Ursan le fils, apprenait seulement que le malade était son père. Mais cela n'éclaircissait rien, et me fit venir une nouvelle idée. L'état de monsieur d'Ursan était pressant. À peine pouvait-il prononcer un mot. Il avait besoin des secours spirituels. Il n'y avait pas de temps à perdre, il se sentait si mal qu'il lui demandait. Il était presque impossible de lui procurer à l'insu de sa mère. Je craignais d'ailleurs qu'il ne mourût sans la voir, et sur toutes ces réflexions, je conclus qu'il fallait d'abord commencer par informer ma tante qu'elle avait un malade chez elle. « Brunon, dis-je brusquement à madame d'Ursan, ne quittez point, monsieur. Quant à vous autres, retirez-vous. » C'était à nos gens qui je parlais. « Et vous, monsieur, ajoutai-je en m'adressant à d'Ursan le fils, ayez la bonté de venir avec moi chez ma tante. » Il me suivit, les larmes aux yeux, et je l'instruis en chemin de ce que j'allais dire. Madame d'Orfrainville allait prendre congé de ma tante quand nous entrâmes. Ce ne fut pas sans quelque surprise qu'elles me virent entrer avec ce jeune homme. « Le père de monsieur, dis-je à madame d'Ursan la mère, est actuellement dans l'appartement d'en bas, où je l'ai fait mettre au lit. Il venait vous remercier avec son fils des offres de service que vous lui avez fait faire, et la fatigue du chemin, jointe à une maladie très sérieuse qu'il a depuis quelques mois, a tellement épuisé ses forces que nous avons cru tous qu'il expirerait dans votre cour. On est venu dans le jardin où je me promenais, m'informer de son état. Alors j'ai couru à lui et n'ai eu que le temps de faire ouvrir cet appartement où je l'ai laissé avec Brunon, qui le garde. Au moment où je vous parle, ma tante, oh, je le trouvais si affaibli que je ne pense pas qu'il passe la nuit. « Oh, mon Dieu, monsieur !» s'écria sur le champ madame d'Orfrainville à d'Ursan le fils. « Quoi ? Votre père est si mal que cela ? car elle jugea bien qu'il fallait imiter ma discrétion et se taire sur le nom du malade, puisque je le cachais moi-même. « Ah, madame, ajouta-t-elle, que j'en suis fâchée. Vous le connaissez donc ?» lui dit ma tante. « Oui, vraiment, je le connais, lui et toute sa famille. Il est allié par sa mère aux meilleures maisons de ce pays-ci. Il me vint voir, il y a quelques jours, sa femme et son fils étaient avec lui. Je vous dirai qui ils sont. Je leur offre ma maison et je travaille même à terminer la malheureuse affaire qu'il a amenée ici. Ah, il est vrai, monsieur, que votre père me fit peur avec le visage qu'il avait. Il est hydropique, madame, il est dans l'affliction. Et je vous demande toutes vos bontés pour lui. Elle ne saurait être si mieux placée ni plus légitime. Permettez que je vous quitte, il faut que je le voie. » « Oui, madame, répondit ma tante, allons-y ensemble. Descendons, ma nièce me donnera le bras. » Je ne jugeais pas à propos qu'elle le vit alors. Je fis réflexion qu'en retardant un peu, le hasard pourrait nous amener des circonstances encore plus attendrissantes et moins équivoques pour le succès. En un mot, il me sembla que ce serait aller trop vite, et qu'avec une femme aussi ferme dans ses résolutions et d'aussi bon sens que ma tante, tant de précipitation nous nuirait peut-être et sentirait la manœuvre, et que Madame d'Ursan pourrait regarder toute cette aventure comme un tissu de faits concertés, et la maladie de son fils comme un jeu joué pour la toucher, au lieu qu'en différant d'un jour ou même de quelques heures, il allait se passer des événements qui ne lui permettraient plus la moindre défiance. J'avais donné ordre qu'on allât chercher un médecin et un prêtre. Je ne doutais pas qu'on administrât M. d'Ursan. Et c'était au milieu de cette auguste et effrayante cérémonie que j'avais dessein de placer la reconnaissance entre la mère et le fils. Et cet instant me paraissait d'infiniment plus sûr que celui où nous étions. J'arrêtai donc ma tante. « Non, non, lui dis-je, il n'est pas nécessaire que vous descendiez encore. J'aurai soin que rien ne manque à l'ami de madame. Vous avez de la peine à marcher, alors attendez un peu, ma tante. Je vous dirai comment il est. Si on juge à propos de le confesser et de lui apporter les sacrements, il sera temps alors que vous le voyez. » Madame d'Orfrainville, qui réglait sa conduite sur la mienne, fut du même sentiment. D'Ursan, le fils, se joignit à nous et la supplia de se tenir dans sa chambre, de telle sorte qu'elle nous laissa aller, après avoir dit quelques paroles obligeantes à ce jeune homme, qui lui baisa la main d'une manière aussi respectueuse que tendre, et dont l'action parut la toucher. Nous trouvâmes la fausse Bruno baignée de ses larmes, et je ne m'étais point trompé dans mon pronostic sur son mari. Il ne respirait plus qu'avec tant de peine qu'il en avait le visage tout en sueur, et le médecin qui venait d'arriver avec le prêtre que j'avais envoyé chercher nous assura qu'il n'avait plus que quelques heures à vivre. Nous nous retirâmes dans une autre chambre, on le confessa, après quoi nous rentrâmes. Le prêtre, qui avait apporté tout ce qu'il fallait pour le reste de ses fonctions, nous dit que le malade avait exigé de lui qu'il allât prier Madame d'Ursan de vouloir bien venir avant qu'on achevât de l'administrer. « Il vous a apparemment confié qui il est ?» lui dis-je alors. « Mais, monsieur, êtes-vous chargé de le nommer à ma tante avant qu'elle le voie ?»« Non, mademoiselle, me répondit-il. Ma commission se borne à la supplier de descendre. » J'entendis alors le malade qui m'appelait d'une voix faible, et nous nous approchâmes. « Ma chère parente, me dit-il à plusieurs reprises, suivez mon confesseur chez ma mère, avec Madame d'Orfrainville, vous en conjure, et appuyez toutes deux la prière qu'il va lui faire de ma part. « Oui, mon cher cousin, lui dis-je, nous allons l'accompagner. Je suis même d'avis que votre femme, pour qu'elle a de l'amitié, vienne avec nous pendant que votre fils restera ici. » Et effectivement, il me passa dans l'esprit qu'il fallait que sa femme nous suivît aussi. Ma tante, suivant toute apparence, ne manquerait pas d'être étonnée du message qu'on nous envoyait faire auprès d'elle. Je me souvins d'ailleurs que, la première fois qu'elle avait parlé au jeune homme, elle avait cru entendre le son de la voix de son fils, à ce qu'elle me dit. Je songeais encore à cette bague qu'elle avait trouvée si ressemblante à celle qu'elle avait autrefois donnée à Dursan. Et que sait-on, me disais-je, si elle ne se rappellera pas ces deux articles, et si la visite dont nous allons la prier à la suite de tout cela ne la conduira pas à conjecturer que ce malade qui presse tant pour la voir est son fils lui-même. Or, en ce cas, il était fort possible qu'elle refusât de venir d'un autre côté. Son refus, quelque obstiné qu'il fût, n'empêcherait pas qu'elle eût de grands mouvements d'attendrissement. Et il me semblait qu'alors Brunon, qu'elle aimait, venant à l'appui de ses mouvements et se jetant tout d'un coup en pleurs aux genoux de sa belle-mère, triompherait infailliblement de ce cœur opiniâtre. Ce que je prévoyais n'arriva pas. Ma tante ne fit aucune des réflexions dont je parle, et cependant la présence de Brunon ne nous fut pas absolument inutile. Madame d'Ursan lisait quand nous entrâmes dans sa chambre. Elle connaissait beaucoup l'ecclésiastique que nous lui menions. Elle lui confiait même de l'argent pour des aumônes. « Ah, c'est vous, monsieur, lui dit-elle. Venez-vous me demander quelque chose? Est-ce vous qu'on a été averti pour l'inconnu qui est là-bas? C'est de sa part que je viens vous trouver, madame, lui répondit d'un air extrêmement sérieux. Il souhaiterait que vous eussiez la bonté de le voir avant que Mirue, tant pour vous remercier de l'hospitalité que vous lui avez si généreusement accordée, et qu'elle peut vous entretenir d'une chose qui vous intéresse. « Qui m'intéresse, moi ? » reprit-elle. « Et que peut-il avoir à me dire qui me regarde ? Vous avez, dit-il, un fils qu'il connaît, avec qui il a longtemps vécu avant que d'arriver en Spécie, et c'est de ce fils dont il a à vous parler. » « De mon fils ! » s'écria-t-elle encore. « Ah, monsieur » ajouta-t-elle après un grand soupir. « Oh, comment est-ce en repos là-dessus ? Dites-lui que je suis très sensible à l'état où il est, que si Dieu dispose de lui, il n'est point de service ni de sorte de secours que sa femme et son fils ne puissent attendre de moi. Je n'ai point encore vu la première, et si on n'a pas averti de l'état où est son mari, il n'y a qu'à dire où elle est, et je lui enverrai sur le champ mon carrosse. Mais si le malade croit me devoir quelque reconnaissance, le seul témoignage que lui leur demande, c'est de me dispenser de savoir ce que le malheur qui m'appelle sa mère, le malheureux qui m'appelle sa mère, l'a chargé de me dire, ou bien, s'il est absolument nécessaire que je le sache, qu'il lui suffise que vous me l'appreniez, monsieur. » Nous ne crûmes pas devoir encore prendre la parole et nous laissâmes répondre l'ecclésiastique. « Oh oui, peut-être question d'un secret qui ne saurait être révélé qu'à vous, madame, et dont vous auriez fâché qu'on eût fait confidence à un autre. Considérez, s'il vous plaît, madame, que celui qui m'envoie est un homme qui se meurt, qu'il a sans doute des raisons essentielles pour ne parler qu'à vous, et qu'il y aurait de la dureté dans l'état où il est, madame, à vous refuser à ses instances. « Non, monsieur, répondit-elle. La promesse qu'il peut avoir faite à mon fils de ne dire qu'à moi ce dont il s'agit ne m'oblige à rien et ne me laisse pas, moi, la maîtresse, d'ignorer ce que c'est. Cependant, de quelque nature que soit le secret, qu'il est si important que je sache, je consens, monsieur, qu'il vous le déclare. Je veux bien le partager avec vous. Si je fais une imprudence, je m'en accuserai personne, et je n'en prendrai qu'à moi. « Mais ma tante, lui dis-je alors, tâchez de surmonter votre répugnance là-dessus. L'inconnu qui l'a prévu vous a demandé en grâce à Madame d'Orfrainville et à moi de joindre nos prières à celles de ce monsieur. » « Oui, madame, reprit à son tour Madame d'Orfrainville, je lui ai promis aussi de vous amener, d'autant plus qu'il a bien assuré que vous lui reprocheriez infailliblement de n'avoir pas voulu descendre. Oh, quelle persécution! S'écria cette mère tout émue. Quel quart d'heure pour moi! Mais de quoi faut-il donc qu'ils m'instruisent? Et vous, Bruno, ajouta-t-elle en jetant les yeux sur sa belle-fille, qui laissait couler quelques larmes, pourquoi pleurez-vous? Mais c'est qu'elle a reconnu le malade, répondis-je pour elle, et qu'elle est touchée de le voir mourir. Quoi? Tu le connais aussi? Reprit ma tante, en lui adressant encore ses paroles. Oui, madame, reprit-elle, il a des parents pour qui j'aurai toute ma vie des sentiments de tendresse et de respect, et je vous les nommerai s'il ne voulait pas rester inconnu. Mais je ne demande point à savoir ce qu'il veut qu'on ignore, répondit ma tante. Mais puisque tu sais qui il est, qu'il a vécu longtemps avec Dursan, dit-il, ne les aurais-tu pas vus ensemble? Oui, madame, je vous l'avoue, reprit-elle. J'ai connu même le fils de Monsieur Dursan dès sa plus tendre enfance. Son fils, répondit-elle en joignant les mains. Ah, il a donc des enfants? Oh, je pense qu'il en a qu'un, madame, répondit Bruno. Hélas, que n'est-il encore à naître? S'écria ma tante. Que fera-t-il de la vie? Mais que deviendra-t-il et qu'avais-je à faire à savoir tout cela? Tu me perces le cœur, Bruno. Tu me le déchires. Mais parle, ne me cache rien. Tu es peut-être mieux instruit que tu veux me le dire, où on est à présent, où il est à présent, son père. Quelle était sa situation quand tu l'as quitté? Que faisait-il? Il était malheureux, madame, repartit Bruno en baissant tristement les yeux. Il était malheureux, dis-tu, il a voulu l'être. Allez, achève, Bruno. Serait-il veuf? Oh non, madame, répondit-elle avec un embarras qui ne fut remarqué que de nous qui étions au fait. Je les ai vus tous trois, leur état aurait épuisé votre colère. Alors voilà assez, ne m'en dis pas davantage, dit alors ma tante en soupirant. Quelle destinée, mon Dieu! Quel mariage! Elle était donc avec lui, cette femme que le misérable s'est donnée et qui le déshonore? Bruno rougit à ce dernier mot dont nous souffrîmes tous, mais elle se remit bien vite, et prenant ensuite un air doux, tranquille, où je vis même de la dignité. Je répondrai de votre estime pour elle si vous pouviez lui pardonner d'avoir manqué de bien et de naissance, répondit-elle. Elle a de la vertu, madame. Tous ceux qui la connaissent, tous vous diront, il est vrai, que ce n'est pas assez pour être madame d'Ursan, mais je suis bien à plaindre moi-même si ce n'est pas assez pour n'être point méprisable. Et que me dis-tu là, Bruno? Reprit-elle. Encore, si elle te ressemblait. Là-dessus, je m'aperçus que Brunon était toute tremblante et qu'elle me regardait comme pour savoir ce que je lui conseillais de faire. Mais pendant que je délibérais, ma tante, qui se leva sur-le-champ pour venir avec nous, interrompit si brusquement cet instant favorable à la réconciliation et parla le rendit si court qu'il était déjà passé quand Brunon jeta les yeux sur moi. Ce n'aurait plus été le même, et je jugeai à propos qu'elle se contint. Il y a de ces instants-là qui n'ont point qu'un point qu'il faut saisir, et ce point, nous l'avions manqué, je le sentis. Quoi qu'il en soit, nous descendîmes. Aucun de nous n'eut le courage de prononcer un mot. Le cœur me battait à moi. L'événement que nous allions tenter commençait à m'inquiéter, et pour elle, j'appréhendais que ce fût la mettre à une trop grande épreuve. Mais il n'y avait plus moyen de s'en dédire. J'avais tout disposé moi-même pour arriver à ce terme que je redoutais. Le coup qui devait la frapper était mon ouvrage. Et d'ailleurs, il était sûr que, sans le secours de tant d'impressions que j'allais pour ainsi dire assembler sur elle, il ne fallait pas espérer de réussir. Enfin, nous parvînmes à cet appartement du malade. Ma tante soupirait en entrant dans sa chambre. Bruno, sur qui elle s'appuyait aussi bien que sur moi, était d'une pâleur à faire peur. Oh, je sentais mes genoux se dérober sous moi. Madame de Orfainville nous suivait dans un silence inquiète et morne. Le confesseur, qui marchait devant nous, entra le premier, et les rideaux du lit n'étaient tirés que d'un côté. Cet ecclésiastique s'avança donc vers le mourant, qu'on avait soulevé pour le mettre plus à son aise. Son fils, qui était au chevet et qui pleurait d'un chaud de larmes, se retira un peu. Le jour commençait à baisser, et le lit était placé dans l'endroit le plus sombre de la chambre. Monsieur, dit l'ecclésiastique à ce mourant, je vous amène, Madame du Sang, que vous avez souhaité de voir avant que de recevoir votre Dieu. La voici. Le fils alors leva sa main faible et tremblante et tâcha de la porter à sa tête pour se découvrir. Mais ma tante, qui arrivait en ce moment auprès de lui, se hâta d'avancer sa main pour retenir la sienne. Non, monsieur, non, restez comme vous êtes, je vous prie. Vous n'êtes que trop dispensé de toute cérémonie, lui dit-elle sans l'envisager encore. Après quoi, nous la plaçâmes dans un fauteuil à côté du chevet et nous nous tînmes debout auprès d'elle. Vous avez désiré m'entretenir, monsieur. Voulez-vous qu'on s'écarte? Ce que vous avez à me dire doit-il être secret? Reprit-elle ensuite, moins en le regardant qu'en prêtant l'oreille à ce qu'il allait répondre. Le malade, là-dessus, fit un soupir, et comme elle appuyait son bras sur le lit, il porta la main sur la sienne. Il la lui prit, et dans la surprise où elle était de ce qu'il faisait, il eut le temps de l'approcher de sa bouche, d'y coller ses lèvres en mêlant au baiser qu'il y imprimait quelques sanglots à demi étouffés par sa faiblesse et par la peine qu'il avait à respirer. À cette action, la mère, alors troublée et confusément au fait de la vérité, après avoir jeté sur lui des regards attentifs et effrayés, que faites-vous donc là? Lui dit-elle d'une voix que son effroi rendait plus forte qu'à l'ordinaire. Mais qui êtes-vous, monsieur? Votre victime, ma mère, répondit-il, du ton d'un homme qui n'a plus qu'un souffle de vie. Mon fils, oh malheureux d'Ursan, je te reconnais assez pour en mourir de douleur, s'écria-t-elle en retombant dans le fauteuil, où nous la vîmes pâlir et rester comme évanouie. Elle ne l'était pas, cependant. Elle se trouva mal, mais elle ne perdit pas connaissance, et nos cris, avec les secours que nous lui donnâmes, rappelèrent insensiblement ses esprits. Oh mon Dieu, dit-elle après avoir jeté quelques soupirs, à quoi m'avez-vous exposé, Tervire? Hélas, ma tante, lui répondis-je, fallait-il vous priver du plaisir de pardonner à un fils mourant? Ce jeune homme n'a-t-il pas des droits sur votre cœur? N'est-il pas digne que vous l'aimiez? Et pouvons-nous le dérober à vos tendresses? Ajoutai-je en lui montrant d'Ursan le fils, qui se jeta sur-le-champ à ses genoux, et à qui cette grand-mère, déjà toute rendue, tendit languissamment une main qu'il baisa en pleurant de joie. Et nous pleurions tous avec lui. Madame d'Ursan, qui n'était encore que Brunan, l'ecclésiastique lui-même, Madame d'Orfrainville et moi, nous contribuâmes tous à l'attendrissement de cette tante qui pleurait aussi, et qui ne voyait autour d'elle que des larmes qui la remerciaient de s'être laissée toucher. Cependant, tout n'était pas fait. Il nous restait encore à la fléchir pour Brunon, qui était à genoux derrière le jeune d'Ursan, et que malgré les signes que je lui faisais, n'osait s'avancer dans la crainte de nuire à son mari et à son fils, et d'être encore un obstacle à leur réconciliation. En effet, nous avions eu jusque-là qu'à rappeler la tendresse d'une mère irritée, et il s'agissait ici de triompher de sa haine et de son mépris pour une étrangère, qu'elle aimait à la vérité, mais sans la connaître et sous un autre nom. Cependant, ma tante regardait toujours le jeune d'Ursan avec complaisance et ne retirait point sa main qu'il avait prise. « Lève-toi, mon enfant, lui dit-elle à la fin. Je n'ai rien à te reprocher à toi. Hélas, comment le résisterai-je, moi qui n'ai pas tenu contre ton père ?» Et ici, les caresses du jeune homme et nos larmes de joie redoublèrent. « Mon fils, dit-elle après en s'adressant au malade, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous guérir ? Qu'on lui cherche partout du secours, nous avons des médecins dans la ville prochaine, qu'on les fasse venir et qu'on se hâte. Mais ma tante, lui dis-je alors, vous oubliez encore une personne qui est chère à vos enfants, qui nous intéresse tous et qui vous demande la permission de se montrer. Je l'entends, dit-elle, eh bien, je lui pardonne. Mais je suis âgée et ma vie ne sera pas encore bien longue. Qu'on me dispense de la voir. Il est plus temps, ma tante, lui dis-je alors. Vous l'avez déjà vue, vous la connaissez, Bruno vous le dira. Moi, je la connais, reprit-elle. Bruno dit que je l'ai vue. Où est-elle? À vos pieds, répondit Dursan le fils. Et celle-ci, à l'instant, venait de s'y jeter. Ma tante, immobile à ce nouveau spectacle, resta quelque temps sans prononcer un mot, et puis tendant les bras à sa belle-fille. « Venez donc, Bruno, lui dit-elle en l'embrassant, venez que je vous paye de vos services. Vous me disiez que je la connaissais, vous autres. Il fallait dire aussi que je l'aimais. Bruno, que j'appellerai à présent Madame Dursan, parut si sensible à la bonté de ma tante qu'elle en était comme hors d'elle-même. Elle embrassait son fils, elle nous accablait de caresses. Madame d'Enfreinville et moi, elle allait se jeter au cou de son mari, elle lui amenait son fils, elle lui disait de vivre, de prendre courage. Il l'embrassait lui-même, tout expirant qu'il était. Il demandait sa mère qui alla l'embrasser à son tour, en soupirant de le voir si mal. Il s'affaiblissait à tout moment. Cependant, il nous le dit même, et pressa l'ecclésiastique d'achever ses fonctions. Mais, comme après tout ce qui venait de se passer, il avait besoin d'un peu de recueillement, nous jugeâmes à propos de nous retirer tous, en attendant que la cérémonie se fît. Ma tante, qui de son côté n'avait pu supporter tant de mouvements et tant d'agitations, sans en être affaiblie, nous pria de la ramener dans sa chambre. « Oh, je me sens épuisé, je n'en puis plus, » dit-elle à Madame Dursan. « Je n'aurai pas la force d'insister à ce qu'on va faire. Aidez-moi à remonter, Bruno. » Karl ne la pleut plus autrement, et nous la conduisîmes chez elle. Je la trouvais même si abattue que je lui proposais de se coucher pour se mieux reposer, et elle y consentit. Je voulus sonner pour faire venir notre femme de chambre, mais Madame Dursan, la jeune, m'en empêcha. « Oubliez-vous que Brunon est ici ?» me dit-elle. Et elle se mit sur le champ à la déshabiller. « Comme vous voudrez, ma fille, lui dit ma tante, qui reçut son action de bonne grâce et ne voulut pas s'y opposer, de peur qu'elle ne regardât son refus comme un reste d'éloignement pour elle. Après quoi, elle nous renvoya chez nous, tous chez le malade, et il ne resta qu'une femme de chambre auprès d'elle. Son dessein n'était pas de rester au lit plus de 2 ou 3 heures. Elle devait ensuite revenir chez son fils, mais il était arrêté qu'elle ne le verrait plus. À peine fut-elle couchée, que ses indispositions d'ordinaire augmentèrent si fort qu'elle ne put se relever, et à 10 heures du soir, son fils était mort. Ma tante le comprit au mouvement que nous nous tenions, Madame d'Orfremil et moi, qui descendions tour à tour, et à l'absence de Madame Dursan et de son fils, qui n'étaient ni l'un ni l'autre remontés chez elle. « Je ne revois ni Dursan ni sa mère, » me dit-elle un quart d'heure après que Dursan le père eut expiré. « Ne me cache rien. Est-ce que je n'ai plus de fils ?» Je ne lui répondis pas, mais je pleurais. Dieu est le maître, continua-t-elle tout de suite, sans verser une larme, et avec une sorte de tranquillité qui m'effraya, que je trouvais funeste, et qui ne pouvait venir que d'un excès de consternation et de douleur. Je ne me trompais pas. Ma tante fut plus mal de jour en jour. Rien ne put la tirer de la mélancolie dans laquelle elle tomba. La fièvre la prit et ne la quitta plus. Je ne vous dis rien de l'affliction de Madame d'Ursan et de son fils. La première me fit pitié tant je la trouvais accablée. Le testament qui déshéritait son mari n'était pas encore révoqué. Peut-être appréhendait-elle que ma tante ne mourût sans en faire un autre. Ce n'aurait pas été ma tante. Je l'en avais déjà pressé plusieurs fois. Et elle me renvoyait toujours au lendemain. Madame d'Onfreville, qui en avait parlé aussi, passa 3 ou 4 jours avec nous. Et le matin du jour de son départ, nous insistâmes encore l'une et l'autre sur le testament. « Ma nièce, me dit alors ma tante, allez prendre une petite clé à tel endroit. Ouvrez cet armoire et apportez-moi un paquet cacheté que vous verrez à l'entrée. » Je fis ce qu'elle me disait, et dès qu'elle eut le paquet, prenez la bonté de me laisser seul une demi-heure, nous dit-elle, et nous nous retirâmes. Tout ceci s'était passé entre nous trois. Madame d'Ursan et son fils n'y avaient point été présents. Mais ma tante les envoya chercher quand elle nous eut fait rappeler, Madame d'Orfrainville et moi. Nous jugeâmes qu'elle venait d'écrire. Elle avait encore une écritoire et du papier sur son lit. Et elle tenait d'une main le papier cacheté que je lui avais donné. « Voici, dit-elle à Madame d'Ursan, le testament que j'avais fait en faveur de ma nièce. Mon dessein, depuis le retour de mon fils, a été de le supprimer, mais il y a 4 jours qu'elle m'en sollicite à tout instant, et je vous le remets afin que vous y voyez vous-même que je lui laissais tout mon bien. » Après ces mots, elle le lui donna. Prenant ensuite un second papier cacheté qu'elle présenta à Madame d'Orfrainville, « Voici, poursuivit-elle, un autre écrit dont je prie Madame de vouloir bien se charger, et quoique je ne doute pas que vous ne satisfassiez de bonne grâce aux petites dispositions que vous y trouverez, ajouta-t-elle en adressant la parole à Madame d'Ursan, j'ai cru devoir encore vous les recommander et vous dire qu'elles me sont chères, qu'elles parlent de mon cœur et qu'en un mot, j'y prends l'intérêt le plus tendre que vous ne sauriez, ni prouver mieux votre reconnaissance à mon égard, ni mieux honorer ma mémoire, qu'en exécutant fidèlement ce que j'exige de vous dans cet écrit que je confie à Madame d'Orfrainville. Pour vous y exciter encore, songez que je vous aime, que j'ai du plaisir à penser que vous allez être dans une meilleure fortune, et que tous ces sentiments avec lesquels je meurs pour vous sont autant d'obligations que vous avez à ma nièce. » Elle s'arrêta là. Elle demanda à se reposer. Madame d'Orfrainville vite l'embrassa, partit à 11 heures. Et 6 jours après, ma tante n'était plus. Vous concevez aisément quelle fut ma douleur. Madame d'Ursan parut faire tout ce qu'elle put pour l'adoucir, mais je ne fus guère sensible à tout ce qu'elle me disait. Et quoiqu'elle fût affligée elle-même, je crus voir qu'elle n'était pas assez. Ses larmes n'étaient pas amères. Il y entrait, ce me semble, beaucoup de facilité de pleurer. Et voilà pourquoi elle ne me consolait pas, malgré tous ses efforts. Son fils y réussissait mieux. Il avait, à mon avis, une tristesse plus vraie. Il regrettait, du moins, son père de tout son cœur, et ne parlait de ma tante qu'avec la plus tendre reconnaissance, sans songer, comme sa mère, à l'abondance où il allait vivre. Et puis je le voyais sincèrement s'intéresser à mon affliction. Ce dernier article n'était pas équivoque, et peut-être, à cause de cela, jugeais-je de lui plus favorablement sur le reste. Quoi qu'il en soit, Madame d'Orfrainville vint 2 jours après au château, avec le papier cacheté que ma tante lui avait remis et qui fut ouvert en présence de témoins avec toutes les formalités qu'on jugea nécessaires. Ma tante y rétablissait son petit-fils dans tous les droits que son père avait perdus par son mariage, mais elle ne le rétablissait en entier qu'à condition qu'il m'épouserait, et qu'au cas qu'il en épousât une autre, ou que le mariage ne me convînt pas à moi-même, il serait obligé de me donner le tiers de tous les biens qu'elle laissait de quelque nature qu'ils fussent. Qu'au surplus, l'affaire de notre mariage se décida dans l'intervalle d'un an, à compter du jour où le paquet serait ouvert, et qu'en attendant, il me ferait du même jour une pension de 1 000 écus, dont je jouirais jusqu'à la conclusion de notre mariage ou jusqu'au moment où j'entrerais en possession du tiers de l'héritage. Mais toutes ces conditions-là sont de trop, s'écria vivement d'Ursan le fils pendant qu'on lisait cet article. Mais je ne veux rien qu'avec ma cousine. Je baissai les yeux et je rougis d'embarras et de plaisir sans rien répondre. Mais le tiers de ce bien qu'on me donnait, si je ne l'épousais pas, ne me tentait guère. Attendez donc qu'on l'achève, mon fils, lui dit Madame d'Ursan d'un air assez brusque, que Madame d'Orfrainville remarqua comme moi. J'aurais été honteux de me taire, reprit le jeune homme, puis décemment. Et l'on continua de lire. L'air brusque que Madame d'Ursan avait eu avec son fils venait apparemment de ce qu'elle savait mon peu de fortune. Et malgré le tiers du bien de ma tante que je devais emporter si d'Ursan ne m'épousait pas, elle le voyait non seulement en état de faire un très riche mariage, mais encore d'inspirer aux partis les plus distingués par la naissance. Quoi qu'il en soit, elle ne put s'empêcher quelques jours après de dire à Madame d'Orfrainville que j'avais bien raison de regretter une tante qui m'avait si bien traité. Mais qu'appelez-vous bien traité? Savez-vous qu'il n'a tenu qu'à Mademoiselle de Thérouville de l'être encore mieux? Lui répondit cette dame, qui fut scandalisée de sa façon de penser. Et vous ne devez pas oublier que vous n'auriez rien sans elle, sans son désintéressement et sa généreuse industrie. Ne la regardez pas comme une fille qui n'a rien. Votre fils, en l'épousant, madame, épousera l'héritière de tout le bien qu'il a. Voilà ce qu'il en pense lui-même. Et vous ne sauriez penser autrement sans une ingratitude dont je ne vous crois pas capable. À l'égard de leur mariage, répondit Madame d'Ursan en souriant, mon fils est encore si jeune qu'il sera temps d'y songer dans quelques années. Comme il vous plaira, répondit Madame d'Orfrainville, qui ne daigna pas lui en dire davantage et qui se sépara d'elle avec une froideur dont Madame d'Ursan profita pour avoir un prétexte de ne la plus voir et pour se délivrer de ses reproches. Cette femme que nous avions mal connue ne s'en tint pas à éloigner le mariage en question. Je sus qu'elle faisait consulter d'habiles gens pour savoir si on ne pourrait pas attaquer le dernier écrit de ma tante, et ce fut encore Madame d'Orfrainville qu'on instruit de cette autre indignité et qui me l'apprit. D'Ursan, qui le savait et qui n'osa me la dire, était au désespoir. Ce n'était pas de lui dont j'avais de me plaindre alors. Il m'aimait au-delà de toute expression, et je ne lui dissimulais pas que je l'aimais aussi. Et plus Madame d'Ursan en usait mal avec moi, plus son fils, que je croyais si différent d'elle, me devenait cher, et mon cœur le récompensait par là de ce qui ne ressemblait pas à sa mère. Mais cette mère, toute ingrate qu'elle était, avait un ascendant prodigieux sur lui. Il n'osait lui parler avec autant de force qu'il aurait dû. Il n'en avait pas le courage. Et pour le faire taire, elle n'avait qu'à lui dire « Vous me chagrinez !» Et c'en était fait, il n'allait pas plus loin. Les mauvaises intentions de cette mère ne se terminèrent pas à me disputer s'il était possible le tiers du bien qui m'appartenait. Elle résolut encore de m'écarter de chez elle, dans l'espérance que son fils, en cessant de me voir, cesserait aussi de m'aimer avec tant de tendresse, et me serait plus si difficile à amener ce qu'elle voulait. Et voici ce qu'elle fit pour parvenir à ses fins. Je vous ai dit qu'il y avait une espèce de rupture, ou du moins une grande froideur, entre Madame d'Orfrainville et elle. et ce fut à moi à qui elle s'en prit. « Mademoiselle, me dit-elle, Madame d'Orfraville est toujours votre amie et n'est plus la mienne. Comment cela se peut-il? Je vous le demande, madame, lui répondis-je. Vous savez mieux que moi ce qui s'est passé entre vous deux. Mieux que vous, reprit-elle en souriant d'un air ironique. Oh, vous plaisantez. Et elle aurait entendu raison si vous l'aviez voulu. Le mariage dont il s'agit n'est pas si pressé. Il ne l'est pas pour moi, lui dis-je, mais elle n'a pas cru que ce fût vous qui dussiez le différer si j'y consentais. Quoi, mademoiselle, vous me querellez aussi? Déjà des reproches du service que vous avez rendu? Oh, cette humeur-là m'alarme pour mon fils, reprit-elle en me quittant. Mais j'ai vu Bruno me rendre plus de justice, lui criai-je pendant qu'elle s'éloigna. Et depuis ce moment, nous ne nous parlâmes presque plus. Et j'en essuyais tous les jours tant de dégoût qu'il fallait enfin prendre mon parti 3 mois après la mort de ma tante et quitter le château, malgré la désolation du fils, que je laissais malade de douleur, brouillé avec sa mère, et que je ne pus ni voir ni informer du jour de ma sortie par tout ce que m'allégua sa mère, qui feignait de pouvoir comprendre pourquoi je me retirais, et qui me dit que son fils, avec la fièvre qu'il avait, n'était pas en état de recevoir des adieux aussi étonnants que les miens. Tant de fourberie me rebuta de lui répondre là-dessus, mais pour lui témoigner le peu de cas que je faisais de son caractère, j'ai demeuré 3 mois chez vous, lui dis-je en partant, et il est juste de vous en tenir compte. C'est bien plutôt moi qui vous dois 3 mois de la pension que vous a laissée, et je vais m'en acquitter tout à l'heure, dit-elle, en souriant du compliment que je lui faisais, et dont ma retraite la consolait. Non, non, lui dis-je avec fierté, gardez votre argent, madame, je n'en ai pas besoin à présent. Et aussitôt je montai dans une chaise que madame d'Orfraville, chez qui j'allais, m'avait envoyée. Je passe la colère de cette dame au récit que je lui fis de tous les désagréments que j'avais eus au château. J'avais écrit 2 fois à ma mère depuis la mort de ma tante, et j'en avais point de réponse, quoiqu'il y eût alors nombre d'années que je n'eusse eu de ses nouvelles, et cela me chagrinait. On pouvait me jeter une situation comme la mienne, mais où pouvait-elle me jeter? Car enfin, je ne voyais rien assuré. Et si madame d'Ursan, qui avait tenté d'attaquer le dernier testament de ma tante, parvenait à le faire casser, que devenais-je? Il n'était pas question d'abuser de la retraite que madame d'Orfraville venait de me donner. Il ne me restait donc que ma mère à qui je pouvais avoir recours. Une des amies de madame d'Orfraville, femme âgée, allait faire un voyage à Paris. J'ai que devoir profiter de sa compagnie et partir avec elle. Ce que je fis en effet 15 jours ou 3 semaines après ma sortie de chez madame d'Ursan, qui m'avait envoyé ce qui m'était dû de ma pension, et dont le fils continuait d'être malade, et pour qui je ne pus que laisser une lettre que madame d'Orfraville elle-même me promit de lui faire tenir.